Bonjour et bienvenue dans Stand Up France, le podcast qui parle de stand-up avec des gens qui font du stand-up pour les gens qui font du stand-up. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Scott Fitz.
Hello, darlings. J'espère que tu vas bien, que tout le monde va bien et que tous ces darlings vont bien et que c'est merveilleux.
Tu sais que tu es le mec le plus refait du podcast, ce game. Il y a Oussama Amar, il y a toi.
Alors, je vais partager une petite anecdote pour nos auditrices ou nos auditeurs, on s'en fout. Alors, j'étais voix pour Femtasy. Femtasy, c'est une application faite par des femmes pour les femmes. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de le dire, mais c'est pas grave. Alors,
Attends.
bon, c'est un truc. Vas-y.
Disclaimer, je ne suis jamais au courant des histoires de Scott, donc je découvre en même temps que vous cette nouvelle histoire avec Fantasy
Alors,
pour les
ah
femmes.
là là,
Merci.
Fantasy. Alors, Fantasy. Ouh, l'histoire est longue, mais je vais pas tout raconter parce que c'est pas très intéressant. Bon, en gros, j'ai fait des audios pornographiques. Voilà. Si vous voulez l'écouter, vous prenez un abonnement ou juste l'essai. Laissez sur Fantasy, vous écoutez trois ou quatre histoires, ou cinq, et vous me dites si vous m'avez trouvé dedans. Mais bon, tout ça pour dire quoi? Que, bien sûr, je ne suis pas dedans avec mon nom de scène, pas avec Scott Fins, mais j'ai un autre nom. Et pour la présentation du narrateur, il fallait dire un truc, un peu pour donner envie aux auditrices de l'écouter. Et moi, j'ai essayé, je me suis dit, bon, ce personnage, il est un peu anglophone, et s'il disait, genre, un truc du genre. Hello, darling. Et les gens de l'appli, super. Ça, c'est super sexy, le petit darling. Et donc, voilà, ça m'a fait rire. Et voilà, c'est
Tu as
tout.
recyclé le truc de ton appli bizarre pour le podcast?
Non, non, j'ai recyclé mon truc de dire darling à tout le monde, ou tout le monde. Même mes élèves de stand-up, ils m'ont offert un jogging marqué Darling Comedy Club. Ils me disent salut, darling. Et ça, le truc du darling, ça m'a fait rire. Et donc, j'ai réussi à le placer dans la présentation de mon personnage sur cette appli. Et ça m'a fait plaisir qu'à moi. Voilà.
Et si on veut parler de la puissance du gimmick? C'est bête, mais moi, mes potes, il y a des auditeurs qui te refont, mais qui te refont trop bien. Mais forcément, ils prennent sur ces gimmicks-là parce que c'est super puissant, ça rentre dans la tête. Et en 2 secondes, mais il n'y a que toi qui as ça, et ça t'identifie. C'est le fait que tu as un nom court, tu vois que c'est Scott Fins, qui se retiennent, que tu aies des gimmicks, que tu aies une voix particulière et tout, ça fait direct un personnage assez
Ouais.
idéal à refaire et caractériser.
C'est vrai, j'ai appris qu'un pote m'imitait et c'est drôle parce que j'avais jamais cru avoir un truc assez distinctif pour que quelqu'un puisse l'imiter. Je pense que tout le monde imagine ça, genre, tu peux imiter tout le monde sauf moi, il n'y a rien à imiter, mais si, voilà.
Ah non, moi j'ai des armées de WhatsApp avec des gens qui te refont.
Oh, ah, c'est merveilleux.
La rumeur dit même que j'ai un groupe WhatsApp spécial.
Ah ouais, pour les darlings.
Pour les
Et voilà.
darlings qui refont. Et c'est drôle parce que c'est un peu comme dans les. Je sais pas si tu as déjà vu des battles de rap
Ouais.
où tu dois. Ben, en fait, tu dois un peu insulter l'autre, mais surtout tu dois le déconstruire. Tu dois le roaster, tu dois comprendre son style. Et c'est vrai que toi, à force. Comme quand les gens veulent t'imiter, ils sont obligés de te déconstruire, se dire OK, c'est quoi sa façon de parler, c'est quand il s'égare, c'est quoi ses thèmes récurrents. Et l'avantage, ce qui est bien, c'est quand tu as quelqu'un de plus vrai que nature en face, c'est que toujours tu te renouvelles. C'est-à-dire que là, tu es arrivé, l'hypothèse qu'il a commencé, on est parti sur de la nouvelle érotique en livre audio.
Ça, c'est très drôle. Ah oui, c'est merveilleux. Non, mais c'est. Et parce que ma vie n'a pas grand-chose d'intéressant, mais il y a des trucs. Là, je viens de faire une série de livres. Alors, mais une daubasse, mais une daube, une daube.
Respecte tes
Alors.
employeurs. Ça fait 2, 3 fois
Non,
que
mais
tu ne
mes
respectes pas tes
employeurs.
employeurs, Scott.
Non, mais je les respecte beaucoup et je donne le mieux de moi-même. Après, le truc, c'est qu'il y a des livres pour enfants écrits par IA. Traduit par IA, et voilà, avec des trucs, et tu vois trop que l'histoire est. Ça, mais bon, je donne le meilleur de moi-même, je fais l'interprétation comme il se doit, et je fais des. Alors que je sais que personne ne va l'écouter, parce que dans l'équipe du client, je suis le seul à parler portugais. Et le mec qui a traduit, il ne parle pas portugais. Donc quand j'ai dit qu'il y avait des erreurs, ah non, mais il ne parle pas.
Et
Je trouve ça drôle.
y a pas une IA portugaise, genre, qui pourrait.
Je ça.
Ouais, et tu peux me confirmer, parce que moi j'avais une amie qui était dans tout ce qui était doublage. Elle faisait beaucoup de publicité et tout. Et à un moment, elle a eu une petite chute d'activité parce qu'on l'a remplacée par des IA. Et puis, elle m'a dit non, mais c'est revenu. Ça a rendu compte que ça ne marchait pas, en fait.
Oui. Ah, j'ai. Et bon, il y a des trucs. J'ai un client. Alors, on a droit d'être vulgaire ici un petit peu ou pas?
C'est moitié mon podcast, moitié ton podcast. Donc, dans
Donc,
ta moitié, tu fais ce que tu veux.
alors dans ma moitié, c'est très bien. J'ai fait pareil une daubasse pour un gars qui vend des livres audio au chapitre. Je pense que c'est ça. Des gens écoutent un chapitre et s'ils aiment, ils écoutent le prochain. Donc, il y a toujours un petit cliffhanger. Et le mec, je ne sais pas si c'est un mec, mais a fait un livre. C'était des loups-garous qui se transformaient. Des gens
J'achète.
qui se transformaient en loups. Mais habituellement, c'était toujours la même histoire, le mec, la fille, etc. Mais là, j'ai la sensation que c'était une histoire d'un mec et d'une fille, et que pour faire un truc un peu plus moderne, ils ont juste mis la fille comme un mec. Et moi, je faisais une voix de fille pendant 3 chapitres, et ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que c'était un garçon qui mouillait du cul et qui pouvait tomber enceinte.
Attends, c'est-à-dire c'était deux mecs loups-garous. Dans un
C'est
mec un
ça.
peu qui avait les capacités reproductrices d'une femme, quoi, qui était entre les deux.
Ouais. Et l'autre, il
Okay.
visait, mais un truc. J'étais là. L'autre, il visait trop ma prostate et il allait me faire tomber enceinte. Mais des trucs. Et pourquoi je dis ça, je sais plus.
Des loups-garous
Mais
très déconstruits. Tu tiens bien
ah
ça.
oui, mais c'était un truc de fou.
C'était par rapport à l'IA que je te disais que ma
Ah oui,
copine
c'est ça, c'est ça.
avait
Oui,
ses
et
propres
justement.
préconisations.
Voilà. Et donc ce client, il voulait que je travaille pour encore moins d'argent. Parce que le client à qui il vendait les trucs avait les voix de synthèse. Après, le problème des voix de synthèse, c'est que tu as quand même besoin de quelqu'un pour écouter ce que la voix produit. Parce que tu imagines que tu vas coller 50 pages dedans et le truc va te fabriquer la voix. Mais comment tu sais si c'est de la merde ou pas? Tu es obligé d'écouter. Et quand tu écoutes, et s'il y a un prénom ou quelque chose qui n'est pas dans la bonne intonation ou quoi, comment tu fais? Le chat GPT, c'est assez sympa. Par écrit, tu peux lui dire de corriger des trucs. Tu peux lui dire non, c'est pas ça que je veux. C'est de là. Et il essaye de corriger. Mais avec une voix, c'est galère. Et donc, oui, ils reviennent. Et après, la voix artificielle, c'est très bien pour des e-learning, pour des trucs chiants où t'as pas besoin. Genre, les annonces de l'aéroport ou la
C'est vrai.
météo du pilote. Si on peut entendre mieux ce qui est dit. Super, mais si on veut de l'art, c'est autre chose.
Là, je voulais faire la formation Stand de France avec justement un avatar et des voix artificielles. Et après, j'ai regardé, même en payant très cher, tu peux pas générer autant de clips que tu veux. C'est pas évident à manipuler en fait. La
Je te
boîte qui fait
propose de
ça.
faire une
Vas-y.
formation avec Avatar. Et c'est moi. C'est
Avatar.
moi, mon avatar. Et moi, je me mets là et je fais la formation.
Je peux parler de cette formation parce que je veux. Comme ça, je. Pour moi, c'est un podcast où on dit la vérité et je veux continuer à partager la vérité avec tout le monde là. Et la vérité, c'est qu'une photo. C'est-à-dire, la vérité d'aujourd'hui, c'est peut-être pas celle de demain pour le coup. Peut-être que je changerai d'avis, mais. En sortant le guide ultime du stand-up, pour moi, c'était un peu une des dernières actions que je faisais à ce niveau-là du stand-up. C'est-à-dire permettre à des débutants de faire du stand-up. Le podcast, je continue parce que j'aime ça. Je suis avec toi, on s'amuse et on rencontre des gens et ça fait du lien. Je trouve que la communauté stand-up, elle est sympa, elle est enrichissante. Je continue comme ça. Stand-up France, je rajoute des choses de temps en temps, ça va. Puis, il y avait cette idée de formation en ligne. Et la formation en ligne, je me suis aperçu, je me suis dit, oh là là, potentiel infini, il y a beaucoup de gens qui aimeraient apprendre comme ça et ils préfèrent apprendre avec des vidéos plutôt qu'avec un livre. Et je pourrais, aujourd'hui, on en a parlé plusieurs fois, on pourrait la faire. Je pense qu'il y a vraiment des clients, il y a un potentiel pour ça, des gens qui seraient prêts à payer quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour apprendre. Mais je vois qu'aujourd'hui, ce qui me motive le plus à formation en ligne, c'est l'argent. C'est-à-dire que le seul vecteur qui me ferait aller et me concentrer sur ce projet pendant plusieurs mois, ça serait le fait de générer un chiffre d'affaires conséquent. Et je vais réexpliquer une théorie qui n'est pas la mienne, mais qui est très très simple. Alors c'est Paco qui me l'a expliqué, mon pote Paco, mais je pense pas que ce soit la sienne non plus. C'est dans un projet, tu as trois facteurs pour le faire. Tu as l'argent, le projet en lui-même, la nature du projet, est-ce que ça te plaît, est-ce que ça ne te plaît pas,
Ouais.
et les gens impliqués. Aujourd'hui, si je fais une formation en ligne, j'ai l'impression qu'il y a, que ça ne répond qu'au côté argent à ce moment de ma vie. Et comme j'ai vieilli, j'aimerais qu'il y ait deux paramètres sur trois ou trois paramètres sur trois pour quand je fais un projet actuellement. Donc il faudrait qu'il y ait l'argent. Tu vois, par exemple, si je te rajoute dans la boucle, ça fait argent et personne piquée, je suis content. Mais il faudra encore que le projet m'intéresse s'il m'intéresse moins qu'avant.
C'est sûr.
Et j'ai pas envie de faire ça avec un seul paramètre. Donc par exemple, quand je fais, quand on me propose d'écrire un spectacle, un gala ou quoi, je suis obligé de réfléchir, OK, il y a la partie monétaire, ça on va la régler très vite. Après, est-ce que le projet, ça me chauffe ou non? Est-ce que la personne qui me propose le projet, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de passer beaucoup de temps?
C'est sûr.
Et j'essaie au maximum d'aligner. Et quand tu commences ta carrière, je crois qu'un seul des paramètres, ça peut suffire.
Ben
Et
oui,
au fur et à mesure,
oui.
après, tu essaies d'en avoir deux. Et idéalement, tu essaies d'en avoir trois.
C'est sûr. Ça, j'ai vu passer un truc de Greg Dean, un petit truc sur Insta qui disait, on ne peut pas te payer assez pour subir tout ce que tu dois subir si tu veux faire une carrière dans le stand-up. Et pourtant, tu le fais gratuitement. Et là, ça va pas. Parce que c'est vrai, tous les trucs. Ouf, moi, des fois, je suis là, ouais, faire 2 heures de route pour 50 balles, pour 100 balles. Oh, je sais pas si j'ai envie. Tu vois, c'est des paramètres après. Alors que j'ai vu des gens faire des 12 heures de Flixbus pour aller faire 5 minutes en Bretagne. Et voilà, quoi. C'est quand tu as l'envie, la passion et tout. Mais après, il faut savoir où est-ce que tu perds du temps, où est-ce que ton temps est bien investi ou pas, et qu'est-ce que tu veux privilégier dans ta vie. Donc,
La route, si tu n'es pas à Paris, je ne vois pas comment tu peux ne pas faire de route.
bah oui.
Parce que vous n'êtes pas à Paris. Soit vous acceptez que votre métier, c'est de faire de la route. Et aux États-Unis, c'est très accepté que tu dois être un road warrior. Si tu n'acceptes pas faire route, tu n'es pas fait pour ce métier.
C'est sûr.
Tu dois faire de la route. Et ce qui implique une chose très simple, hein. Avoir une voiture, tu es plus puissant que ceux qui n'ont pas de voiture. Accepter de rouler, de monter des équipes, c'est important. Ce sont des paramètres importants. Je me souviens, il y a 10 ans, je faisais Marseille-Montpellier régulièrement. Donc, c'est 2h30, 3h. Et là, en ce moment, je réfléchis, je me dis, tiens, je pourrais aller à Nice, je pourrais faire ci. Et j'accepte de prendre un compas et de faire 2 heures autour de chez moi pour aller jouer, pour faire aboutir les projets.
Ouais.
Et
Non,
là,
bah, j'allais dire, mon arme ultime quand j'ai créé le Fais-moi rire Comedy Club, c'était un camion que ma femme avait acheté pour son entreprise à 6 places. Donc, et là, on pouvait aller n'importe où. On avait c'est un Vivaro. On avait de la place dans le coffre pour la sono, pour tout le bordel. Et on pouvait y aller à 6 quelque part. Et on est allé faire l'ouverture à Osgore. Pour ça, parce que le gars, il passe un coup de fil, j'ai besoin d'humoristes. Ok, on y va à 5. Il y a quoi? C'est quoi le truc? Et on y va. Et ça, c'était vraiment, ça a ouvert beaucoup, beaucoup de portes, plutôt que des gens. Tu peux me récupérer à la sortie du métro? C'est fou à la sortie du métro, mec. C'est intéressant, hein?
le plan Osgore, on peut encore l'activer parce que j'ai quelqu'un de cool qui m'a demandé le plan Osgore pour cet
Alors,
été.
plan Osgore, c'est juste contacter le Hive. C'est le Hive à Osgore. Je ne sais.
Attends, oh là là, c'est fou toi, tu vois. Déjà, j'ai donné les plans de Nantes et tout, ils se font assaillir là. Non, non, dis pas le mot, dis-le
Ah oui,
clairement.
non, ne contactez pas le Hive à Osgore. Donc.
Je dois faire suivre à la personne en question qui a
Ah oui.
confiance en moi et qui jouera avec plaisir. Et même moi, je le rejoindrai, je pense.
Faites comme si vous n'avez rien entendu.
Voilà. Oui, la voiture, super important. C'est le modèle économique qu'on a parlé il y a 2 épisodes du Carton Comedy Club, qui est un comedy club itinérant qui parle. Le vaisseau mère, il est à Nantes, mais ils partent, ils ont un Vendée en particulier. Ils font la Vendée, les Deux-Sèvres, la Bretagne, ils rayonnent autour de Nantes. Et il y a un vrai modèle économique qui est super vertueux. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui vont leur devoir leur intermittence.
Ouais.
Donc j'en ai
Je vais
assez
copier à
parlé.
Toulouse, ça. Je vais le copier à Toulouse, ça m'a inspiré. Et après, je ne sais pas s'il y a assez de masse critique autour dans la région Occitanie pour
Mais bien sûr, mais moi
faire ça, mais
nous on a
l'envie
fait
est là.
en Occitanie, on a joué avec le Braise Comedy Tour l'année dernière, mais c'était des superbes dates. Et on arrivait avec notre bus et on gagnait. c'était très correct, ça se passait très bien. Cool. Et n'hésite pas à te rapprocher justement du Carton Comic Club. Ils peuvent te donner, je pense, quelques indications. Eux, ils vont continuer à s'étendre, mais bon, ils ont une zone géographique très définie. Il y a la même chose qui va se passer. Je le sais, je le sens, j'ai des conversations. Dans l'Est, ils vont faire la même chose. Vers Bordeaux, il y aura la même chose. Nous, le Sud-Est, ben, j'attends encore que quelqu'un se prenne en main et fasse la même chose. Je vais te dire, l'avantage qu'on a dans le Sud, c'est qu'on a des châteaux, des endroits, des exploitations viticoles, des moulins, plein d'endroits qui sont inexploités en dehors des mariages, qui n'attendent que ça.
Ben
Des
oui, c'est vrai.
Des petites communes où ils ont besoin d'animation. Donc, il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment de quoi payer sans problème 4 comédiens chaque soir et de les payer au cachet, parce que c'est ça l'enjeu, il est là. Hein.
Ben
Des
oui.
gens qui organisent dans le Sud-Est des trucs merguez qui sont payés 50 euros de la mer à la mer, il y en a, c'est pas ça qui manque. Maintenant, on a besoin de se professionnaliser.
C'est ça.
Mais par contre, quand tu payes les gens au cachet, voilà, ça oblige les gens aussi à rehausser leur jeu. Ça oblige l'organisateur à faire quelque chose d'un peu carré, de faire la pub pour que ce soit bien. Parce que quand tu payes comme ça ou au chapeau, s'il y a 20 personnes, il n'a pas pris de risque. Mais quand tu prends des risques, tu veux que ta soirée se passe bien.
Ça me fait penser à une fois, j'ai joué ici et le gars qui organisait le truc, il nous filait, c'est 8 euros et tout, au chapeau. Et il nous fait, et encore, vous avez de la chance, j'ai rien pris pour moi.
Ouais.
C'est un peu ça.
Mais, c'est lunaire, oui. C'est lunaire.
Ah oui, bah après, bon, c'est un bourbier très qualitatif qu'on a ici. Moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Et justement, avec le podcast aussi, ça m'a fait évoluer. Et donc, j'ai lancé ma boîte de prod. Et en plus, voilà, je fais des livres audio pourris pour avoir de l'argent pour mettre dans la boîte de prod pour développer ça. Et avant, on avait créé le Fais-moi rire Comedy Club. Donc, FMR, c'était à la base un comedy club éphémère et itinérant, jusqu'à ce que la radio éphémère de Toulouse nous ait menacé de nous péter la gueule parce qu'on avait pris FMR. Donc, je ne savais plus, je n'étais pas au courant, je suis étranger. Mais bon, je l'ai changé. Et maintenant, c'est Fais-moi rire Comedy Club. Et donc, le but, c'était de aider les curieux à devenir des amateurs. Et maintenant, ce que moi, je veux, c'est d'aider les amateurs à devenir professionnels. Et c'est ça, le truc. Et j'ai pensé, par exemple, avec le Carton ou d'autres gens qui ont des circuits un peu plus organisés, on fait des échanges, quoi. Je lui envoie 2-3 artistes, il m'envoie 2-3 artistes, parce qu'il n'y a pas de compétition. Voilà, c'est juste, il y a le public, quoi. On te montre... Un gars,
en fait, vous allez aller dans le même endroit. Le Carton, le modèle, c'est aller régulièrement, chaque mois ou deux fois par mois, à, je te démarque, au Sable d'Olonne.
Ouais.
Une fois que les comédiens sont passés, il y a vraiment la nécessité de faire venir d'autres comédiens.
Mais oui.
Donc, le pool, il est infini. Et après, on tourne, mais c'est vrai que tu renouvelles pas tes sketchs 3 fois par an. Donc, eux, il n'y a aucun souci pour accueillir des gens parce que de toute façon, il faut présenter au public des comédiens qualitatifs. Par contre, c'est à toi à avoir un label. C'est-à-dire, quand je t'envoie quelqu'un, il assure, il n'est pas casse-pied, il sera à l'heure, il assure
sur
scène, sera un bon camarade. S'il faut monter un peu les projecteurs, il montera les projecteurs, quoi, il filera le coup de main parce que ça aussi, être bon camarade,
c'est
ça.
Oui.
C'est tirer les câbles, c'est ranger quand il faut ranger. Parce que moi, je pourrais arriver et dire « Allez, c'est bon, je suis là juste pour jouer. Débrouillez-vous, je vous attends dans la voiture. » Mais non, c'est un tout. S'il faut conduire, je conduis. S'il faut monter la scène, je monte la scène. C'est pas grave, on est tous ensemble, on partage une expérience.
Oui, oui, oui. Et ça, c'est très important, oui. Parce que des fois, des gens qui sont là « ma gueule, ma gueule, ma gueule », ils sont rigolos 5 minutes, quoi. Après, une fois que tu les as fait jouer et que tu as vu qu'ils s'intéressent à eux et pas aux autres ou pas à toi, la prochaine fois qu'il faut le faire venir, tu te poses la question si pourquoi tu travaillerais pour cette personne. Si cette
Exactement.
Personne, quand elle vient, elle ne fait pas un effort pour toi. Donc,
sachant que le travail, il est en amont, c'est-à-dire l'organisateur, il a trouvé le lieu, il a dealé le truc. Après, il y a toute la logistique de la voiture, toute la logistique de contrat. Avant, après, le paiement, il faut respecter, il faut faciliter. Je suis vraiment de la team. Il faut faciliter la vie des producteurs et des organisateurs. Quand on vous demande une photo, des renseignements et tout, il faut que ça parte dans la journée, il faut qu'ils aient ça, il faut que ce soit carré, il ne faut pas qu'on vous court après. C'est vraiment un signe de professionnalisme et de manque de professionnalisme quand vous ne le faites pas.
Mais oui, c'est drôle, c'est des gens, tu demandes une photo, ils ne t'envoient pas la photo. Donc tu vas dans leur réseau, tu prends la photo, tu la fais, après ils te demandent de la changer. Non, je n'aime pas cette photo.
Ouais, mais
la photo, tu vas voir.
Si tu laisses du vide, le vide s'en remplit. t'envoie pas la photo en prenant la photo que tu avais mis il y a 10 ans sur Facebook où tu as la mèche de côté, quoi. C'est comme ça.
Ouais. Après, il y a pareil un autre conseil de Greg qui disait quand le MC te demande si tu as une présentation particulière ou si tu veux qu'il te présente d'une manière particulière, ne dis jamais non, non, fais ce que tu veux. Parce que il peut dire et maintenant, le prochain, c'est le mec qui a inventé la fellation. Faites du bruit pour machin. Ou peut te dire un truc. Vraiment, il y en a des MC qui font ça, genre. Hein. Et là, le mec le plus drôle de l'univers, vous allez vous pisser dessus tellement il est drôle. Et après, t'arrives. Et alors que voilà, si on te demande un texte, bah fais-le et fais-le bien. Voilà,
c'est ouais, la musique, ça, la musique d'entrée. Si tu dis mets ce que tu veux, bah, tu vas avoir, tiens, voilà du boudin pour entrer, c'est tout. Hein.
Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est très drôle.
Ah, alors, je veux te parler d'un comedy club. Encore une fois, à Nantes, puisque je finis d'être adopté par la ville de Nantes. Alors, ce n'était pas réciproque. Hein. C'est-à-dire, moi je veux être à Nantes et eux, ils ne me veulent plus déjà. Tu vois, quand ils te croisent,
ah oui.
Ça fait un peu longtemps que tu es ici, tu pourrais rentrer chez toi.
Oui, c'est ça. Il y a encore lui, oh merde. Bria, à l'RPS de Nantes.
Ouais, mais ça se passe bien là-bas, c'est cool. Ouais. Si ce n'est la pluie, c'est une bonne ville. Donc, ils ont un comedy club qui s'appelle le Smile Comedy Club. Je ne vais pas parler 10 heures sur eux et pour eux parce que le créateur Ashref viendra aussi s'exprimer de la même façon que Ulrich, le créateur du Carton Comedy Club, viendra s'exprimer dans le podcast. Ils nous expliqueront chacun leur vision, leurs attentes, pourquoi ils ont fait ça. Mais je vais quand même essayer de résumer le Smile Comedy Club. Smile Comedy Club, c'est un comedy club en dur, c'est-à-dire c'est un vrai comedy club.
Ouais.
À Nantes, un quartier plutôt riche de Nantes, avec à côté, tu as un hôtel de luxe, le Radisson, tu vois, voilà, c'est assez guindé ce coin-là. Donc, ils ont ouvert ce comedy club avec une vision, c'est qu'il fallait avoir le smile, le sourire. Et c'est venu d'un constat que le créateur, il allait des fois dans des comedy clubs assez cotés, en particulier à Paris, où il n'a pas eu ça. Où il n'a pas eu le personnel souriant, il n'a pas eu cette ambiance-là que lui, il attendait. Ça l'a un peu déçu. Ça a terni son expérience du comedy club. Il s'est dit, moi, le jour où je joue mon comedy club, je veux que tout le monde ait le smile, public, employé et tout. Donc, il crée ce comedy club. Alors, pour te situer, il y a un rez-de-chaussée où tu as un bar. Après, tu as un premier étage où tu as le comedy club, la salle, avec une très belle scène, avec un décor un peu de ville derrière, une cuisine. Le truc, c'est que l'expérience, c'est que par exemple, tu t'assieds, tu regardes Comedy Club et tu as un petit QR code. Et si tu veux commander, hop, tu commandes et une minute après, tu amènes ton plat à table, mais sans qu'il y ait d'échange de mots.
Ah, hop, ça, c'est génial, ça.
Pour préserver le côté Comedy Club, il y a aussi, ils font le choix de faire un entracte au milieu du Comedy Club.
Ouais. Donc, bah oui.
Ça résout les problèmes d'aller aux toilettes, ça résout le problème de commande, c'est.
C'est sinon, on peut faire comme un propriétaire de lieu à Toulouse a fait un soir, entre le troisième et le quatrième humoriste, il a dit « Attendez, il faut que j'encaisse tout le monde. » Avec un seul truc carte bleue, il a encaissé tout le monde. Il y avait genre 15 tables et là, tout le monde attendait qu'il ait fini de trucs. Et après, vous êtes chaud. Non. Mais en train
arrivé, attends, mais tu sais que c'est un truc qui a l'air bête, cette histoire d'encaisser, mais... Ouais, je sais pas si d'autres trajets au Sarfati, c'est littéralement ça. Qui est censé être le comedy club, tu vois, plus. À l'avant-dernier, il commence à encaisser. Donc, tu as quelqu'un qui passe à chaque table, qui fait les opérations. Et toi, tu es obligé de payer alors que tu veux écouter le sketch. Et il y a un truc qui est pas agréable dans la démarche de venir te faire payer à ce moment-là.
Oui. Ouais, parce qu'ils ont peur que les gens se barrent sans payer à la fin.
Je comprends, mais il faut le résoudre autrement. Je pense que tu es à ce niveau de comedy club, tu dois pouvoir trouver des solutions alternatives. Donc le smile, il crée ça, et il a cette vision, il se dit, il y a encore un étage, un deuxième étage, où là, il y a un grand salon pour les humoristes, avec une cuisine, un canapé, cuisine, table à manger, une salle de bain fonctionnelle avec la douche, les toilettes et des serviettes.
C'est cool ça.
Une pièce, une chambre avec une mezzanine où tu as 4 couchages.
Wow.
Une autre chambre avec un grand lit. Plus, et c'est là où je tire mon chapeau. Je me dis, c'est trop bien. J'en ai parlé à plein de gens et ça les a, tout le monde a trouvé ça incroyable. En fait, Ashref, le propriétaire, il est parti d'un constat très simple, c'est qu'il y a beaucoup de comédiennes qui sont mamans, qui sont jeunes mamans.
Bah oui.
Et quand tu les héberges, elles viennent, il faut qu'elles aient la possibilité de venir avec leur enfant et souvent un enfant en bas âge. Donc lui, il a configuré cette chambre avec une télé, des loisirs, un petit lit, de quoi accueillir une maman avec son enfant. Et elle peut faire 2 jours en comédie club sans problème avec son enfant. L'enfant, il sera trop bien, il aura des distractions pendant qu'elle joue. Et il sera accueilli, il y aura tout ce qu'il faut. Mais pour cette catégorie de population qui est négligée. Les jeunes mamans en stand-up, c'est pas ça qui manque. Et leur donner l'opportunité de venir et d'être bien reçue, je trouve que c'est une action formidable et très progressiste.
Ah oui, c'est très sympa. Et des gens divorcés aussi. Parce que tu peux être ne pas être jeune maman. Et moi, j'avais ça comme au cours. Il y avait pas mal de gens qui venaient une semaine sur deux. Parce qu'ils avaient, voilà, les enfants une semaine sur deux, etc. Ça tombe. Mais c'est très cool, c'est très cool. Après, bon, moi, avant que tu te mettes à parler de trucs bien, j'allais faire une blague. Et je dis, putain, Ashref, s'il met un miroir au plafond de la grande chambre, je postule pour venir jouer. Mais après, t'as dit un truc sérieux et voilà, merde.
On accepte toutes les blagues. Je t'ai dit 50-50, tu as le droit aux blagues.
Ah, c'est bien. Allez.
Non, voilà, je vous recommande pour vous dire, je vous recommande le Smile Comedy. Vous les contactez sur Instagram. Comme d'habitude, avoir une vidéo propre, ça aide. Être recommandé, ça aide.
Être
Comme
drôle.
toujours, hein, être drôle, ça aide encore plus. Comme toujours à Nantes, ben, tout est réglo au niveau des cachets, tout ça. Tout est très bien fait. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Forcément, ils cherchent toujours des nouveaux comédiens. Ils s'y connaissent en stand-up. Donc, et soyez pas frustrés si vous n'êtes pas pris actuellement. Encore une fois, comme j'ai dit en préambule le podcast, aujourd'hui, c'est une photo. Avril 2024, c'est une photo. Ça ne veut pas dire que dans un an, le paysage n'est pas changé, que vous n'ayez pas pris du galon.
Ben oui.
Ou alors que vous ayez rencontré les bonnes personnes ou que vos sketchs ils aient explosé Internet. Et à ce moment-là, vous serez pris et ça sera très bien. Mais en attendant, ne gardez pas de rancœur si vous n'êtes pas programmé quelque part. Juste, jouez tous les ballons, c'est important. Et allez-y, le cœur léger.
Oui, et surtout, bon, et faut être aussi élégant dans le rejet, quoi. Si on vous dit non, tu dis, ok, super, merci, t'as un retour à me faire. Oui, toi, je pense que tu fais de la merde. Ah, merci. Et tu vas te, mais pas dire, ouais, ici c'était drôle, c'était un pote, il avait envoyé il avait demandé à jouer dans un comedy club. Et des mecs, ils répondaient pas. Au bout d'un moment, il a perdu patience, il s'est mis à faire des vidéos sur les réseaux. Hey, le comedy club, hey, ça fait longtemps que je vous demande pourquoi vous ne me répondez pas. Et c'est pas bien de ne pas répondre aux gens. Du coup, ils lui ont répondu non. Voilà. Et s'est fait griller un peu
Ah, mais je l'ai
de
vécu,
tous
moi
les
j'ai
comedy
vécu
clubs, quoi.
des gens qui ont insulté des programmateurs, des insultes, des trucs. Et sur le moment, je dis, c'était un ami en particulier qui avait insulté un gros comedy club. J'ai dit, mais ça sert à quoi en fait? Tu
Ben
comprends
oui.
pas qu'ils ont 300 messages, ça ne sert à rien, ils ne te répondent pas, ils ne répondent pas, il n'y a pas de frustration, c'est plus ta faute que la leur presque.
Ben oui,
Ne
c'est
te
ça.
prends pas la tête. Et il a fallu un an pour qu'il réalise, qu'il revienne sur le truc, il dit, tiens, tu avais raison, moi j'aurais pas dû faire ça et je regrette.
Ben
Mais
oui.
c'est pas grave parce qu'il peut toujours s'excuser, il peut toujours s'amender, faire machine arrière, dire pourquoi il a fait à ce moment-là, et je pense que tout le monde comprendra. Et il faut, pareil, votre capacité à passer outre ces choses-là, à passer outre les petites vexations, elle est importante. Il faut pardonner, il faut avancer, on va. Faut pas se focaliser sur les trucs, choses négatives. Souvent, il y a un truc et tout le monde, moi je le fais, le premier fait, des fois on va me donner 9 trucs et je vais focaliser sur le 10e truc qu'on ne me donne pas.
Ouais.
Mais alors que je devrais rester sur les 9 trucs qu'on m'a donné, être reconnaissant pour ça, avoir de la gratitude et oublier les trucs qu'on ne me donne pas, c'est pas grave ça.
Ouais. Bah oui, c'est ça, parce que de toute façon, ça se joue sur le long terme. Et voilà, tu vas travailler longtemps et travailler dur sans voir de résultat. Et des fois, tu presque, tu vois le résultat et après, non. Et après, moi, des fois, j'ai ça. Genre, une fois, un mec qui m'avait abordé pour l'aider sur son scénario, et le mec avait une page Wikipédia. J'ai dit, wow, ça y est, je suis dans le game. Je travaille avec quelqu'un qui a une page Wikipédia. Et après, ça s'est pas fait. Mais voilà. Et donc, c'est là. Voilà. Donc, mais il y a des trucs qui viennent plus tard. Et des fois, il y a des choses, par exemple, j'ai une copine, ça n'a rien à voir avec le stand-up.
Je t'en prie.
Qui fait du ultra-réalisme au super-ultra-réalisme. Donc, elle copie des photos. Elle copie des photos au crayon papier. Et c'est un truc, c'est génial. Bon, moi, je voulais la faire bosser. Et donc, je lui ai commissionné un portrait de John Cleese, donc des Monty Python, qui est affiché chez moi. Donc, je lui demande, je choisis une photo de lui sur Internet. Je lui envoie la photo et je lui dis, bon, j'aimerais que tu me dessines cette photo. Et comme ça, je lui filais un peu d'argent et elle le faisait. Elle l'a fait. Elle a publié sur les réseaux. Le photographe qui a fait la série de photos de John Cleese ce jour-là est tombé dessus. Il lui a envoyé une autre photo qui n'était pas publiée de cette série-là directement. Et le mec était à New York. Il a envoyé ça au Portugal. Et
c'est génial.
Waouh,
la puissance des réseaux.
Délire. Ah ouais, c'était génial. Franchement, elle ne me l'a pas donné.
Ah, tu vois, c'est ça.
Alors que l'idée, c'était la mienne. Merde. Voilà. Mais c'était, des fois, c'est étonnant, quoi.
Il y a un film qui se trouve, alors moi, je crois que je l'ai vu sur Netflix encore, Créature féroce. Je ne sais pas comment il s'appelle. Comment tu l'as connu, toi, ce film, Créature féroce?
Mais je ne l'ai pas connu du tout.
Ah, si, si, c'est avec John Cleese. C'est un film de fou. Ça s'appelle Fierce Creatures. Et c'est, je me souviens l'avoir vu au cinéma avec mon père à la fin des années 90. Et une rigolade, mais c'était un truc de fou. C'est un film incroyable. Je vous le recommande, Créature féroce. Il y a Kevin Kline, Jamie Lee Curtis, Michael Palin.
Ah ouais,
Mortel. C'était sur un zoo anglais. C'était
ah
trop,
ouais.
Trop bien. Ah ouais, c'était. C'est parce que les Monty Python, on retient les Monty Python. Il y a eu des trucs après. Ils ont fait des choses très intéressantes par la suite.
Ouais. Et bon, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est justement l'autobiographie de John Cleese. Il parle des spectacles et comment il est venu dans le monde de l'humour et tout. Et les expériences qu'il faisait. Donc, il y a un spectacle. Ils font un spectacle. Et à un moment, il y a une partie où il y a juste un mec qui rentre sur scène et qui dit, bon, excusez-moi, il y a un problème technique. Voilà quoi. On me dit voilà, juste, je suis désolé. Je peux vous raconter une blague si vous voulez. Donc, il raconte une blague, mais à chier. Mais une blague ultra nulle. Je pense qu'il y a une personne qui rigole ou quoi. Il fait, c'est pas résolu, alors je peux vous la refaire. Il refait exactement la même blague. Et après, il part. Et c'est. Voilà. C'est une expérience, quoi. C'est un happening, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup ce genre de truc. Street art.
Il doit enchaîner alors sur un truc. Est-ce que tu l'as vu le spectacle que je t'ai envoyé de Ruben Solo?
J'ai vu une partie. J'ai pas tout vu encore.
Alors, Ruben Solo, c'est un comédien australien. C'est un gars de Melbourne. Et il a. Moi, c'est un gars que j'ai vu arriver sur les réseaux, sur Instagram. Il a à peu près 200 000 followers sur Instagram.
Ouais.
Et c'était marrant ce qu'il faisait. Il utilisait beaucoup de choses alternatives. Il utilisait des vidéos. Il utilisait des graphiques. Il utilisait des petites choses, des petits accessoires comme ça. Où vraiment, ça attirait déjà mon regard. Et il y a quelques temps, il a sorti un spectacle sur YouTube.
Ouais.
Le spectacle s'appelle Feedback Loop. C'est Full Comedy Special 4K, il a sorti en décembre 2023. Le spectacle, il a genre 20 000 vues. Donc, c'est pas grand-chose. Je le dis, pour moi, c'est mon spectacle préféré de l'année.
Ben oui.
Je me suis régalé pour un spectacle diffusé comme ça sur YouTube. Le gars, il m'a acquis comme follower, comme client. Je suis fou de ce spectacle. Il m'a tué. Moi, j'ai pas pu résister au fait de le voir en entier. C'est-à-dire, je l'ai vu la moitié un soir et le lendemain, je me suis levé en me disant, je me languis de voir la suite, qu'est-ce qui se passe dans la suite. C'est que des happenings, c'est que des séquences mortelles. Il y a une. Tout est fou d'un spectacle. Tu vois l'intervention que tu dis, un mec intervient au milieu, c'est ça foissant.
Ouais.
Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est pas du stand-up, c'est très artificiel et tout, mais pour faire ce genre d'humour, je sais à quel point c'est dur de régler ça parfaitement. Et là,
ah oui. Mais lui, de ce que j'ai vu, il tient. C'est ça qui est assez difficile quand tu as des trucs qui sont très évidemment préparés à l'avance. Donc, il n'y a aucune illusion de spontanéité. Mais il te tient vraiment bien, quoi. Parce que le problème, quand tu fais un truc, t'as un paperboard, t'as un truc, t'as des objets, des accessoires, des entrées, du jeu, etc., des gens qui viennent, des sons qui se lancent, etc., c'est de jouer faux. Et beaucoup de gens jouent faux. Et j'ai un pote, par exemple, on a une
J'ai pas trop aimé l'histoire de mettre paperboard et faux dans la même...
Ah non, c'est difficile de mais c'est difficile de jouer vrai et de ouais, parce que sinon, c'est pas quand tu viens avec un accessoire et tu vas ah, ça c'est drôle. Il faut que ce soit vraiment drôle. Il faut que le public trouve ça drôle même plus que toi, tu vois, c'est un peu je sais pas comment expliquer mais c'est pas, par exemple, quand tu chorégraphes un truc avec un son et tu es là, tu regardes la régie et le mec de la régie est en train de te gratter les couilles. Il en va. Ça, c'est moi, souvent. Quand on me demande des trucs de la régie, je fais exprès de chier le truc. Mais bon, on demande la régie et tu vois le comédien arrêter en train de regarder dans le vide comme ça. J'ai vu Elise Moon faire ça en spectacle. Au bout d'un moment, il fait « Bah, musique !» Et là, la musique se lance. Et du coup, c'est, voilà, ce que je dis, c'est dur à faire bien, à faire naturel, à donner l'impression d'être spontané. Lui, il le fait, le gars. Et il ne se démonte pas. Il y a une partie où il part en feedback loop, justement. Il fait un truc, il répète la même chose pendant 2-3 minutes. Et c'est exactement les mêmes mots qui reviennent. Et lui, il le fait bien. Il ne surjoue pas et il ne se démonte pas. Il ne casse pas le personnage. Et ça doit être ultra dur à faire. Parce que quand tu es en stand-up, t'es censé être toi-même tout le temps, juste amplifier ce qui tu es. Et ça il faut savoir le faire. Moi par exemple, je peux le faire. Mais
ça demande beaucoup de travail en amont, on le sait. Ouais. Et ça demande une croyance absolue dans votre comédie. Parce que ça part dans des tunnels et vous ne pouvez pas arrêter au milieu. Vous ne pouvez pas commencer à improviser, à dire des bêtises quand vous partez sur des concepts aussi fous que ce que fait Ruben Solo.
Ouais.
Donc, le spectacle, il est sous-titré en anglais, si vous voulez. C'est très bien sous-titré. Les sous-titres ont été travaillés. Il n'est pas en français, mais il est très simple à comprendre. Vraiment, il est super simple à comprendre avec les sous-titres. Je vous le recommande chaleureusement. Pour moi, c'est la petite découverte. Ça m'a fait comprendre qu'un spectacle, ça peut être ce qu'on veut. Vraiment, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez éclater un spectacle. Moi, je ne suis pas de l'équipe qui dit... En fait... Je vais être très simple. Il y a plein de façons de faire un spectacle. Vous pouvez aussi dire, moi, mon spectacle, je vais filmer en zéro gravité sur la Lune. Et vous serez toujours le premier à l'avoir fait, en zéro gravité sur la Lune. Mais il peut ne pas y avoir de propos à le faire en zéro gravité sur la Lune. Il peut ne pas... Ça peut ne pas servir la comédie. Il y a des gens qui ont fait des salles exceptionnelles, mais je ne vois pas ce que ça sert dans la comédie... Ça raconte rien, ça raconte juste qu'ils ont fait cette salle et qu'ils ont vendu une chier de billets. Et c'est une opération commerciale. C'est pas la même chose.
J'aime bien l'expression.
Ouais. C'est pas la même chose quand tu dis, moi, mon spectacle, c'est un ovni. Je le joue dans tel contexte parce que c'est ça que ça sert mon propos. J'ai besoin de tel artifice parce que les blagues ne marchent qu'avec tel artifice. Et ça m'a fait du bien de voir ce spectacle. Ça m'a libéré. Je me suis dit, waouh. Et le mec, il fait que 22 000 pour l'instant sur YouTube. Et c'est pas grave, parce que ce gars-là, il vient d'être vu par Briac en France, il a été vu peut-être par Machu aux États-Unis, il a été vu par... Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, cette démarche-là, de livrer du matériel, ça va être payant.
Mais oui. Oui, surtout que et je sais pas, les gens sont un peu radins avec leur blagues, leurs trucs. Bon, après, bien sûr, on peut te les chourer. Un mec qui fait 20 000 vues, moi, j'y vais, je peux prendre ses blagues et les faire en France. Il y a que Briac qui va
me griller.
Oui, c'est ça. Mais sinon, oui, ta meilleure blague, tu ne l'as pas encore écrite, quoi. Donc, c'est ça.
Donc, voilà, la recommandation, Ruben Solo, vous aurez le lien YouTube. Je vais vous recommander un autre truc en stand-up. Il y a Rami Youssef qui est un très très bon stand-upper que j'aime beaucoup, qui fait un peu partie de l'équipe que je considère que je vais mettre avec Bob Burnham, que je vais mettre avec... Oui, il s'appelle le mec qui a fait Love at the Store. Voilà, toute cette petite équipe-là qui produisait tout leur stand-up sur HBO, toute cette jeune génération-là. Rami Youssef, il a fait l'ouverture du Saturday Night Live. Donc, épisode 15, 49e saison, il a fait un cold opening. Tu sais, c'est quand tu rentres au Saturday Night
Ouais.
Live, il va faire entre 5 et 10 minutes de stand-up. Je vais aller sur le sujet
Ouais.
qui est... Moi, souvent, on a des discussions et je vois beaucoup de stand-uppers qui sont très impliqués dans les questions politiques, en particulier sur le sujet de la guerre en Palestine. Et donc, ils, tous les jours, en parlent, font des choses. Voilà. Et là, Rami Youssef est allé frontalement sur ça. Il a dit quelque chose, il a sorti une blague qui est vraiment... C'est même pas une blague. Lui, il a carrément donné son avis, mais... De but en blanc, il a dit un truc très fort. Je ne veux pas vous spoiler, je vous recommande de voir cet opener. Moi, je trouvais ça super, super, super bien. Donc, je peux vous dire la blague. Hein. C'est la blague sur un. Il croise un pote qui est religieux et qui lui dit: Est-ce que tu peux prier pour moi parce que je viens de me séparer? Et on avait un chien en commun avec ma femme et j'aimerais avoir la garde du chien. Et après, il a son pote Ahmed qui est dans la bande de Gaza et qui lui demande de prier parce que sa famille a disparu. Et tu vois, il dit, ben, je dois prier pour les deux, quoi. C'est pas la même chose, mais bon, mes prières iront aux deux. Et il demande carrément, littéralement, Rami Youssef, il fait carrément un appel, il dit de libérer le peuple palestinien. Et il y a tout le monde qui applaudit. Et après, il demande de libérer aussi les otages et il y a tout le monde qui applaudit.
Mais
Et je
oui.
pense qu'il a fait un statement pour moi, d'ouvrir un Saturday Night Live en amenant cette idée que ben, les prières, elles ont des valeurs, les gens, ils ont des problématiques différentes, mais il faut penser à chacun et à considérer chaque position. Je trouvais ça super élégant de sa part. J'en attendais pas moins parce que c'est un incroyable stand-upper. Et que lui, en tant que musulman américain, il avait sûrement son mot à dire plus que d'autres. Moi, je trouvais ça incroyable. Donc, épisode 15, saison 49, je vous ferai y a un petit lien YouTube aussi dans la description du podcast. Je vous recommande d'aller voir ça.
C'est drôle, ça me fait penser à Jon Stewart qui faisait un truc, un late show pareil. Et avant, c'était longtemps avant le dernier truc d'Israël, Palestine, où il parle de ça. Ouais, sinon Israël. Et là, il y a des gens qui sortent d'en dessous de son bureau. Ouais, antisémite, machin, machin. Il dit non, non, mais je veux parler de ça. Et dès qu'il dit l'autre mot, il y a pareil un groupe de gens qui sortent. Ouais, islamophobe, machin, machin. Et donc, quoi que tu dises, tu es toujours dans un camp ou dans un autre. Après, je vois beaucoup de gens suivre et ça, c'est chiant. Suivre la bien-pensance et faire un truc. On imagine qu'il y a une majorité de gens qui disent ou qui pensent un certain truc. Souvent, sur les plateaux, c'est des gens de gauche. Et tu vas dire des trucs de gauche et les gens vont taper des mains, etc. Et alors que, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vis? Ou est-ce un truc, tu sais, t'as la pelouse et tu y vas, quoi.
Je ne sais
Des fois,
pas,
je me
je ne sais
doute.
pas, je ne peux pas mesurer, je ne suis pas Dieu, je ne peux pas mesurer la sincérité des gens quand ils s'expriment. Il y en a qui ont trouvé Rami Youssef en mode ONU, très, très propre sur soi. Moi, de mon point de vue, je trouvais ça très, très sympa, très joli et très, très intéressant son point de vue. Voilà, ce n'est pas évident de jurer la sincérité quand quelqu'un s'exprime. Hein. Même nous, notre parole peut être remise en question. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à questionner ce qu'on dit. Hein.
Ouais.
N'hésitez pas, moi, on n'est pas des gourous, on n'a pas la réponse à tout. Ouais, non, mais vraiment, c'est important de se dire que ce que
Oui.
dit Scott, ce que dit Briac, c'est qu'un avis. Moi, je n'ai pas la vérité sur le stand-up, Scott l'a pas. Si je l'avais, je ne suis pas sûr que je la partagerais forcément avec vous. Je ne
Oui.
sais pas. Donc, on essaie d'être sincère, de se rapprocher de ce sentiment. Vous avez vu qu'il y a des épisodes où je suis arrivé très énervé, j'étais très vindicatif envers le milieu, envers des choses. Puis il y a des épisodes où on est plus apaisé parce que la vie, elle est comme ça, on apprend. Il y a quelques années, moi, j'avais des sujets de prédilection qui me tenaient à cœur et je tapais sur un clou. Aujourd'hui, ce clou, ben, je l'ignore parce que c'est plus mon actualité. Mais on essaie d'avoir des guides comme ça, des directions. La direction, c'est d'être des gens positifs du stand-up, de vous amener d'inspiration. Nous, il n'y a rien qui nous fait plus plaisir que quand vous nous dites « J'ai commencé le stand-up grâce à vous ». J'ai déménagé pour aller faire du stand-up dans telle ville à Nantes ou quoi parce qu'on écoutait le podcast et ça nous a chauffé. J'ai créé mon comedy club grâce à vous. J'ai commencé à m'intéresser au contrat, au Guzo et tout parce que vous en avez parlé. J'ai compris que je faisais fausse route en étant frustré parce que voilà, je me concentre sur mes blagues parce que vous m'avez dit de concentrer sur les blagues. Et je suis content quand c'est positif comme ça.
Ben oui. Ben oui, c'est ça, c'est ça. C'est, on a tous des opinions et des fois, bon, on juge hâtivement des trucs, on n'a pas toutes les infos et on a des émotions et notre vécu et notre propre défaillance et tout ça. Et tout ça se mélange. Donc, le but, c'est de... OK, regarde, on réfléchit à ça. C'est ça, une invitation à réfléchir et à trouver sa propre réponse. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans le milieu artistique et dans le stand-up en particulier, c'est que le seul avis qui compte est le tien. Ça, c'est génial. C'est à la fois libérateur et un truc de panique totale parce que t'es la seule opinion qui compte, c'est la tienne. Voilà. De tout ce que tu fais, ou que tu choisis de faire ou tu choisis de ne pas faire, c'est que toi qui décides et c'est que toi qui vas récolter le bon et le mauvais de ça. Donc,
je rappelle la théorie d'Elisabeth Gilbert qui a écrit le livre Mange, Priez, mais qui a aussi écrit une méthode d'écriture. Elle dit, et je le réaffirme, il y a trois facteurs dans la réussite. Il y a le travail, quel soit le travail tu mets, le talent et la chance. On ne maîtrise que le travail.
Ben oui.
Le talent, est-ce que tu es bien câblé, est-ce que... C'est très dur à mesurer, c'est très subjectif et tout. Et la chance, c'est dans la définition, ça se contrôle pas. Par contre, vous pouvez contrôler le travail et ce que vous faites. Et nous, on vous incitera toujours à contrôler le travail, ce que vous faites.
Oui. Et avec, justement, avec du fameux feedback de solution. C'est-à-dire que des fois, on me demande « Ah, qu'est-ce que t'en penses de... ?» J'ai dit « Qu'est-ce que t'en penses de quoi ?» Quel est le point en particulier où tu aimerais un retour ? Parce qu'en général, tu vas dire « Ah, ça me fait rire, ça me fait pas rire. » Mais c'est sur le travail. Donc, si c'est sur le travail, on peut dire des trucs particuliers avec le travail, avec une technique, avec une suggestion technique à faire.
Et surtout, et c'est normal, on fait tout ça, moi ça m'est arrivé, mais d'arriver en disant « je veux te parler stand-up » et ça dévie très vite vers le remplissage, vers les réseaux sociaux, vers machin. En fait, vous arrivez avec 100 problématiques et c'est pas possible en fait. C'est très simple, si le problème c'est sur tel sketch, restons sur tel sketch, on essaie de résoudre le problème du sketch. Si c'est les réseaux, moi, je ne suis pas forcément compétent. Mais c'est une autre personne, c'est une autre spécialité. Mais restez focus sur moi et identifiez bien vos trucs. Si vous mélangez tous les problèmes en même temps, j'ai un pote, un vieux pote qui est venu récemment avec en disant « Mon spectacle, il y a un souci. » Et après, au bout d'un quart d'heure de trucs, c'était 1000 soucis en fait. C'est plus, il ne me parlait plus du spectacle. Il me parlait du fait de jouer dans un certain comedy club, du fait que ça ne se vendait pas, du fait du positionnement et tout. Et je fais « Non, mais ce n'est pas la même chose. » Et tu sais, le pire, c'est qu'à la fin, son spectacle, moi, je ne trouvais pas qu'il avait de soucis. Je crois qu'il était très bien. Ça marchait très bien comme ça. Et il avait mal identifié ses problématiques. Donc, prenez du temps à bien identifier vos problématiques. Mettez des mots, mettez-le à l'écrit. Et pareil, si vous êtes quelqu'un dans la position de conseil, c'est-à-dire si on vient vers vous avec les problématiques que vous devez conseiller, comme le dit Scott et comme l'a appris vraiment Scott, c'est vos retours, il doit y avoir des débuts de solutions dedans. Il doit y avoir des axes de pro. Sinon, ne faites pas de retour. En retour, ça va être constructif.
Mais sinon, ouais, un truc aussi très intéressant, très, très puissant, c'est de demander quelle est la blague. Quelle est la blague? Quelle est la blague? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le truc? Qu'est-ce que tu veux dire? Et ça, parce que très souvent, tu vas te retrouver, « Ah non, c'est juste un jeu de mots avec chat et chatte. » Et dire, « Ah ouais, c'est ça ta blague? » Ben, si c'est ça ta blague, c'est ça que tu veux faire. Quelle est ta blague? Et des fois, les gens, quand tu les pousses un petit peu à réfléchir à quelle est la pensée importante qu'ils veulent transmettre, là, tu peux les aider. Mais sinon, tu donnes des conseils de base, mais tu n'aides pas vraiment. Et eux, ils ne s'aident pas non plus. Donc, moi, c'est ça. C'est toujours savoir quelle est la blague. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Et ça, ça aide.
Très bon leitmotiv. Quel est le propos? Qu'est-ce que tu voulais dire? Et surtout, ça permet que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Ça veut dire que ça réaffirme aussi. Si vous voulez faire un truc pour dire que vous aimez vos parents, le fait de vraiment poser ça et de dire c'est mon fil conducteur, ça permettra toujours de rentrer dans un certain cadre, vos blagues, votre propos, et de ne pas trop s'en éloigner, de toujours recentrer autour de ça. Mais ça, vous devez l'affirmer, le verbaliser et communiquer avec votre metteur en scène, votre auteur, votre conseiller, votre mentor.
Ouais. Et ça, pour écrire pour des gens et conseiller pas mal de gens dans l'écriture et tout, pour moi, et surtout pour moi, le truc le plus difficile, c'est d'obéir à la discipline. Ça, c'est un truc de fou. Parce que la prémisse, c'est une promesse. Tu parlais un truc tout con. C'est pas forcément vrai tout le temps, mais tu viens avec une prémisse. J'aime pas mes parents ou j'aime pas, je sais pas quoi. Et bon, et les blagues vont être des exemples de la prémisse. OK. Et là, dans le chemin créatif, tu as, je sais pas, 10, 20, 30 blagues qui viennent, qui sont à côté. Parce que là, c'est comme une ligne de train. Ta prémisse t'amène du point A au point B. Et ça, c'est le truc que tu sais au départ. Mais dès qu'il y a un mot qui te fait rigoler et tu rebondis sur ce mot, bah, si tu suis ce délire, tu n'arriveras plus au point B. Tu vas arriver au point H ou au point B ou n'importe quoi. Pas B, un autre point. Et moi, j'étais concentré pour ne pas dire G. Et je me suis embrouillé. Voilà, comme quoi c'est difficile. Juste une phrase si simple comme ce que j'ai essayé de faire. Et parce qu'après, on peut, ouais, on passe de. Et voilà, on se noie. Parce que tout est blague. Tout est blague. Moi, quand je bosse avec les gens, ils sont là un peu. Des fois, il y en a qui sont un peu étonnés de la facilité avec laquelle on peut faire des blagues. Parce que pour faire des blagues, il faut juste réinterpréter quelque chose. Que ce soit un mot, une expression, un verbe, une action, une raison, tu réinterprètes et tu as une blague. Et une fois que tu as ta tête formatée comme ça, tout est blague. Moi, ce que je dis aux gens, mais attends, mais écrire des blagues, c'est facile. Ça, c'est pas un problème. Écrire, on sait écrire. Techniquement, on sait faire. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Et comment on se force à dire ce qu'on veut et à faire des blagues avec ce qu'on veut dire? C'est là la difficulté. Mais faire des blagues vides, ça c'est facile. Voilà.
Alors, je me permets une dernière reco pour conclure ce podcast. Ça va être sur Apple TV. Il est sorti un documentaire sur Steve Martin.
Ben ouais.
Alors, c'est en deux parties. Alors, Steve Martin, il y a un livre qui s'appelle Ma vie de comique, Born Standing Up en anglais, qui est superbe. Alors, j'avais adoré le lire. Il est très facile à lire et se trouve relativement facilement. Il existe en poche. Donc, Ma vie de comique, je vous le recommande. Et là, c'est la version documentaire, c'est en deux parties. Première partie, c'est sur sa période stand-up, c'est-à-dire de sa naissance au moment où il devient star du stand-up. C'est incroyablement intéressant. La démarche intellectuelle qu'il a, le mec fait des études de philo, il questionne le rire, qu'est-ce que le rire? Et il a cette approche très particulière de dire, ok, c'est quoi, ça veut dire quoi quand je fais à quelqu'un? Ça veut dire, j'ai une tension et je relâche la tension. C'est ça comme ça que ça se construit. Et si je relâchais pas la tension? Et si j'arrivais à ne jamais relâcher ça? Qu'est-ce que ça donnerait? Et pendant des années, il va créer son acte en se disant, je vais faire une bizarrerie et je ne relâcherai plus la tension et je vais chambouler les gens. Sachant que quand il développe son acte, il arrive en même temps qu'une espèce de stand-up conscient qui va être
Ben oui.
représenté par Lenny Bruce, par des gens qui vont avoir un propos. C'est-à-dire que lui, il arrive, c'est la guerre du Vietnam, et les gens, ils veulent parler de ça, et lui, il arrive en étant un clown.
Ah oui, ils sont tous un peu alternatifs, un peu habillés différemment. Lui, il est toujours très apprêté, très bien habillé.
Ah, c'est même pas ça, c'est au niveau du propos. C'est-à-dire que les gens veulent faire arrêter le Vietnam, les gens ont un vrai propos sur la société, sur la place des Noirs, sur tout ça. Et lui, il veut pas ça, lui, il veut juste faire des blagues absurdes. Et donc, le milieu stand-up, à ce moment-là, il lui dit, ah, tu as contre-temps, ça va pas. Et c'est comment il va imposer sa comédie jusqu'à devenir le plus gros vendeur de billets de l'histoire,
Ben oui,
à
mais.
remplir des stades. Et comment, au sommet de son art, il va dire, j'arrête. Alors moi, je l'avais compris d'une certaine façon dans le livre, pourquoi il a arrêté. Il la réaffirme totalement dans le documentaire. J'avais bien compris, je pense que j'avais bien compris. Le documentaire semble mettre l'emphase sur ce que j'avais compris, pourquoi il arrête. C'est plurifactoriel, mais en gros, il sent que son succès va baisser. Il sent que les stades sont moins remplis. Et surtout, il dit un truc de fou, c'est je sais ce que ça m'a coûté en gros d'arriver à ce spectacle-là. Il ne se revoit pas partir sur 15 ans de galère pour arriver à un autre spectacle comme ça. Mais il faut voir un documentaire pour mesurer à quel point ce gars-là a été populaire, à quel point ce gars-là a été influent. Et c'est réaffirmé par Jerry Seinfeld, par d'autres personnes. Hein. Il est backé par du beau monde.
Ah oui. Ouais.
Ses premières parties de documentaire, c'est vraiment 0 à 30 et quelques années, stand-up. Deuxième partie documentaire, on quitte les images d'archives et on arrive dans le présent. Et ça va aborder sa carrière cinématographique et son actualité récente.
C'est une bête, ce mec.
Ouais.
Parce qu'il fait deux carrières à succès différentes, successives, mais équivalentes presque. C'est un truc de fou.
Mais dans le cinéma, ce qui est intéressant, c'est que le gars, il va échouer fort dans le cinéma. Mais il va avoir des succès, mais il va aussi vraiment échouer, mais à douter de tout parce que la critique lui crache dessus. Et à chaque fois, il ne sait pas pourquoi il enchaîne des bides, il enchaîne des trucs. Et c'est douloureux de le voir même en parler maintenant. Tu vois que c'est douloureux de se dire, putain, je me loupe sur des choses, sur des projets. Et il va être audacieux sur certaines parties, se louper sur d'autres. Il va y avoir beaucoup de. Vraiment, l'approche, elle est très intéressante parce que lui, il a beaucoup d'archives, il a beaucoup de choses chez lui qui peuvent étayer son propos. Il y a des témoignages. Et surtout, c'est un gars qui a une troisième carrière maintenant, un troisième souffle. C'est qu'il a une série sur Disney+ qui s'appelle Only Murders in the Building, qui fait avec la chanteuse Selena Gomez et. Comment il s'appelle Martin Short, je ne sais plus. Attends, je vais te
Ouais,
dire.
Martin Short, ouais, c'est son pote
Voilà.
depuis très longtemps, ouais.
Et tu te dis, c'est fou parce que la dynamique qu'ils ont dans Martin Short, la dynamique qu'ils ont dans la série, ils l'ont pas inventé, c'est la dynamique qu'ils ont dans la vie. C'est les mêmes
Ah oui.
vannes, c'est les mêmes, ils sont pareils. Et tu te dis, waouh, ils ont encore la joie de faire des choses ensemble, de faire des spectacles ensemble. Et c'est ouais, vraiment un documentaire. J'ai préféré la première partie parce que c'était sur le stand-up. La deuxième partie, j'ai apprécié. On voit sa passion pour l'art, on voit beaucoup de choses. Il a été papa sur le tard, c'est très touchant. Je vous le recommande. Chaleureusement, il n'y a pas grand-chose sur Apple TV.
Ouais.
Donc, vraiment, c'est le type de plateforme que je vous recommande de prendre une fois de temps en temps. Vous dépensez 6-7 euros pour un mois et vous voyez tout ce qu'il y a à voir dessus.
Ouais.
Mais ce documentaire, une petite merveille, je vous recommande très fort. Steve Martin, en deux parties sur Apple TV.
Ouais. Il y a aussi sa masterclass que j'avais regardée sur le site Masterclass.
Ah.
Ça a une masterclass complète sur la comédie. Bon, après, les grands artistes, ils sont pas ouf pour apprendre la comédie aux autres, mais c'est
Elle est
génial.
bien, hein?
Ah oui,
Elle est
elle est
bien,
très
je
très
l'avais
bien.
vue grâce à toi, avec tes codes, je l'ai vue.
Je ris de mes codes. Voilà, donc c'était très bien. Et Steve Martin, un truc que j'aime beaucoup, c'est à un moment, il ramène un pistolet de pompe à essence qu'il pose sur scène, tout le spectacle, tout le spectacle. Et il fait rien avec, rien. Il fait des trucs avec tous les autres objets, sauf celui-là. Et à la fin, quelqu'un lui dit, je me souviens plus exactement, mais quelqu'un lui dit, ben alors, et ça? Bah ça, ce truc, bah ce truc, j'ai trouvé 5 balles chez Emmaüs. Boum. Voilà. C'est génial, 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 génial.
Ben Ruben Solo a une blague incroyable, c'est qu'il pose une boîte énorme sur la scène.
Ouais.
Et à la fin du spectacle, quand ça se termine, il pose des questions, il fait, mais la boîte, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, la boîte, c'est rien ça. Et après, il y a une vraie résolution sur la boîte, mais qui est très, très drôle. Et c'est le même effet, c'est-à-dire que Ruben Solo fait un truc qui a été fait il y a 50 ans par Steve Martin, et il le fait à sa façon. On fait toujours la même chose, mais un peu différemment, il n'y a pas de honte.
Ben oui. Moi, j'ai trop envie d'amener, je sais pas, une guitare, un truc, machin, et de ne pas la toucher pendant tout le truc. Voilà. Et à la fin,
Une
tu
blague.
comprends? Ben oui, c'est ça, c'est ça. Et tout, mais c'est ça qui est génial dans la comédie, c'est que tout est réinterprétation. Moi, j'avais fait une fois, c'est une des blagues où je suis le plus fier de moi, c'était à la fin d'un spectacle, les gens, pour donner ses instincts. Donc, il passe le micro et quand il me donne le micro, je rote dedans. Et ça, on a tous rigolé. J'ai roté dedans.
J'ai envie que tu meurs quand tu me dis un truc comme ça, j'ai envie que
Ah oui,
tu
parce que c'est une réinterprétation. Quand tu prends un micro, tu es censé parler. Et dès que tu réinterprètes ce que l'humoriste fait avec ça, et tu fais tout, quoi que ce soit d'autre que de parler, tu crées une surprise, tu crées un bug dans la tête des gens et ça rigole. Après, j'ai jamais
Je
joué.
vous en supplie, ne copiez pas Scott sur ça.
Péter, faire un truc
Ah
à
ouais, ne
votre compte.
copiez pas Scott
Soyez
sur ça.
originaux.
Bon, on ne peut pas conclure mieux le podcast qu'avec cette histoire d'euros sur scène. Merci Scott pour cette sagesse, pour tout ce que tu donnes au stand-up.
Ah.
en France, à la région de Toulouse. N'hésitez pas à spammer Scott si vous voulez jouer à Toulouse.
Je ferai jouer les Darlings. Venez, venez, c'est avec joie.
Ne promets jamais ça. Oh là là, tu as ouvert la boîte de Pandore, ne promets rien. Ne promets.
Mais c'est avec joie. Après, je n'ai pas dit que c'était avec une scène des publics. Je venais jouer, venez les gars, allez, venez y voir la gare. Ah d'ailleurs, il y a Lisa Mapoda qui est venue jouer et qui m'avait demandé justement pour jouer. Je n'ai pas pu la faire jouer parce qu'on n'avait pas de soirée ce jour-là. Et il se trouve qu'on a joué ensemble un soir. Et je lui fais un bisou si elle écoute ça. Allez.
Lisa qui est à Marseille, qui est une jeune artiste de Marseille qu'on aime beaucoup. Et qui a pris les cours à Belmédior. Voilà, c'est tout.
Allez. À que pour tout.
Ciao, ciao.
Ciao.